Bienvenue dans 94 degrés à Londres, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h.
L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis.
L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale.
Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66.
Par mail à l'adresse 94degrésalondres@protonmail.com
ou par courrier à l'adresse Canal B 94 degrés à Londres, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes.
Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à Londres sur Canal B.
Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à Londres.
A tout de suite!
Salut à toutes et tous, vous écoutez l'émission 94 degrés à l'ombre. On est très content de vous retrouver comme chaque dimanche de midi à 14h et de passer ce petit moment avec vous. Du coup, 94 degrés à l'ombre, c'est une émission qui consiste à partager des messages vocaux, des lettres, des morceaux entre les personnes enfermées et leurs proches. Et également à discuter d'anticarcéralisme, de l'abolition des lieux d'enfermement dans une seconde partie d'émission. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec...
Elle, coucou, c'est moi. Et puis aujourd'hui, bah, du coup, on a Tim qui est à la technique. Et on a aussi un invité qui est venu nous parler un petit peu de Vezin, le Coquet. Voilà, je ne sais pas si tu veux te présenter.
Bonjour, moi c'est Falco, je suis ancien détenu, donc je sors d'une peine à peu près de 2 ans. Donc plus tard dans la matinée, je vais vous expliquer le déroulement de ce que c'est vraiment la détention à Vezin.
Ben, merci beaucoup en tout cas d'être venu et tout. Et du coup, on a reçu aujourd'hui des messages vocaux pour Aurélie de la part de ses parents et de la part de Bernard, Claudette et Romain. On a reçu un message vocal de Diane pour Mourad, un message vocal de Malika pour tous les détenus et Norman. On a reçu une dédicace de Fred pour Pascaline et on a aussi une dédicace de Falco du coup, bah, qui est là dans les studios, il pourra la faire directement. Et comme d'hab, avant de vous partager tout ça, on va vous transmettre un petit morceau d'intro qui est le morceau RSA de Rock. Bonne écoute et on se retrouve juste après. Alors Spotify est un petit peu réticent à lancer le morceau. Ok, ça arrive tout de suite. Désolé pour ce petit désagrément. Eh ben, je crois qu'on n'a plus de connexion internet actuellement. mais on va se débrouiller quand même. Alors, j'ai tout simplement perdu la connexion internet.
Mais moi aussi, je pense qu'il y a un petit problème dans la studio de Canal B, mais c'est pas grave, on va se débrouiller, on va trouver une solution pour pouvoir vous passer les musiques aujourd'hui. Mm-hmm. En attendant, on va...
Eh ben, peut-être que, en attendant que ça revienne, on peut déjà commencer à vous partager les messages qu'on a reçus. Du coup, avec notamment un premier message qu'on a reçu de la part des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et du coup, le morceau qui était accompagné du message, c'était le morceau Tour du monde de Yans. Et je ne sais pas si la connexion sera revenue entre-temps. Et sinon, on se débrouillera. Mais en tout cas, je vous partage du coup le message vocal des parents d'Aurélie pour Aurélie.
Bonjour Aurélie, de la part de papa, maman et tes enfants. On espère que tu vas à peu près bien. Bon courage pour la semaine prochaine et puis fais attention à toi. À très bientôt et puis on t'embrasse très très fort. Gros bisous.
Bonjour Aurélie, c'est maman. Bon, Luna et Titouan te font des gros bisous. Hein. J'espère que ça va, tu fais attention à toi, on t'embrasse très très fort et puis plein de gros bisous. Bisous.
Voilà, du coup, c'était le message des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et on n'a toujours pas accès à Internet dans le studio. Et ben, en attendant que ça vienne, peut-être que, exceptionnellement, on peut faire le point info avant de partager vos messages et vos dédicaces. Puisque, pour l'instant, on peut pas partager les morceaux tout simplement que vous nous avez envoyés. Est-ce que ça vous irait?
Oui, oui.
Ok. Okay. Oui, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, on voulait parler avec Falco. N'hésite pas à bien parler dans ton micro, sinon, des fois, on a tendance à pas trop entendre. Voilà. Et tu étais venu un peu pour parler de ton expérience. Tu étais au CPH de Vezin et tout. Tu es sorti il y a pas longtemps et apparemment, il se passe quand même pas mal de dingueries là-bas. Donc si tu veux parler un peu de ton expérience, nous partager tout ça, nous on est là pour ça.
Bah, niveau dinguerie, je pense qu'il y a de quoi dire. Déjà j'aimerais parler par rapport à les violences qui ont été faites par rapport à des détenus que je connaissais, qui m'ont assez choqué. C'est une vie qu'il faut pas vivre en fait. On vient pas en prison pour mourir. Ça, c'est mon côté point de vue. Et à côté de ça, dès que j'ai pu voir ça, je me sentais pas du tout en sécurité par rapport à l'administration pénitentiaire. Ça, c'est le premier fait. Ensuite, il y a le côté des cantines, voilà, là où ils font un peu tout ce qu'ils veulent. Voilà, je connais des personnes qui ont cantiné pas mal de choses et qu'ils n'ont jamais reçu leur cantine. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas respectable. Surtout quand les familles envoient des virements. Ou alors les virements, on ne les reçoit quasiment pas. Ils piochent sur notre argent. Ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Ensuite, avant de sortir, j'ai pu constater que les postes n'étaient plus en vente. Le fait d'être coupé du monde extérieur, alors ça veut dire qu'on nous enlève le poste. Les personnes qui n'ont pas d'argent, ben ça veut dire que, ben en fait, elles peuvent rien faire. Elles peuvent pas s'acheter de la nourriture, elles peuvent pas s'acheter de l'hygiène. Donc ouais, c'est un désastre. Vezin, je déconseille à tout le monde. Parce que nous, en tant que détenus, nous on rentre, on fait notre peine, mais les personnes de l'extérieur ont aussi une peine à faire. Ben, la peine de qu'est-ce qui va arriver à mon mari, qu'est-ce qui va arriver à mon fils, qu'est-ce qui va arriver à mon frère. Et ça, c'est pitoyable. Et là, je parle au nom de tous les détenus de France, quasi.
Pour, du coup, tu parlais des cantines, même tu disais que des fois, il y a de l'argent qui disparaît, quoi. Quasiment, enfin, qu'il y a eu des virements qui avaient été faits et que les personnes n'ont jamais vu la couleur.
Ben, j'ai un ami à moi qui reçoit énormément d'argent par rapport à sa femme. Et ben, je prends un petit exemple. Hein. Il avait fait une cantine d'environ 150 euros, alors qu'il avait reçu 400 euros. Donc on lui avait livré que 40 euros de cantine. Du coup, il a écrit au service comptabilité, il n'a jamais eu de réponse. Et c'est comme ça tous les mois, en fait. Après, bon, il y a des... Après, on doit payer niveau tout ce qui est télé. Ça aussi, je pense que c'est... Je pense que c'est trop cher, en fait. Parce que la télé, c'est 15 euros, le frigo, c'est 5 euros. Après, il y a tout ce qu'on paye au niveau de la cabine téléphonique. Ça, c'est un bouffe-pognon. Je sais de quoi je parle. parce que ma femme m'envoyait des virements pour que je l'appelle. Et par mois, j'étais à quasi 400 euros de cantine dans la cabine. Et puis j'ai dû faire autre chose. Voilà, je me cache pas. Oui, j'avais un téléphone et j'étais obligé d'être comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, sur 15 détenus, on est 10 à avoir des téléphones en cellule. Voilà, après, on n'a pas le choix.
Et du coup, tu parlais du prix des appels téléphoniques. Et je crois, enfin, peut-être tu pourras nous confirmer ou non, mais que tout est extrêmement plus cher en tôle. Quand tu continues, que ce soit la nourriture, les appels, on l'a vu. Et tout ce que tu peux cantiner, en fait, est beaucoup plus cher que si tu l'achètes à l'extérieur.
En fait, le premier problème, c'est que c'est qu'en détention, ils choisissent leur prix. Par exemple, du café dehors, il doit être aux alentours de 1,80€. En détention, le café, il a quasi 2,50€. Ensuite, il y a des... Je parle par rapport au poste autoradio, parce que moi j'avais un poste. À l'époque, quand j'étais incarcéré, le poste il était à 30€. Maintenant, il est à 60€. Donc, je trouve pas trop ça normal.
Sachant que la plupart du temps, c'est interdit que ces objets-là soient amenés par les proches qui les auraient trouvés à des prix beaucoup moins chers, quoi.
Après, le souci, c'est que y avait un service qui faisait rentrer des objets, comme tout ce qui est console. Au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est fini. On peut plus en faire de rentrer de console. Ou alors, quand on a une console dans notre cellule, si le surveillant ou le chef ne t'aime pas, il vient, il te prend ta console dans ta cellule. Mais ça, c'est quelque chose que... C'est inadmissible, en fait. Parce que nous, quand on est libéré, on laisse nos affaires. On laisse nos affaires pour les prochains, et ainsi de suite. On va pas penser à s'amuser... bonjour, monsieur le chef, on va vous faire un courrier pour vous laisser nos affaires.
J'ai l'impression que, dans ce que tu dis, dans le fait que les matons et tout puissent confisquer des trucs, il y a aussi beaucoup l'arbitraire, quoi, de... Enfin, en fait, les matons font ce qu'ils veulent et que c'est vraiment eux qui choisissent les règles auxquelles... est-ce que c'est des trucs que t'as pu voir et tout ça?
C'est vrai qu'ils ont leurs propres règles. Il y a pas mal de personnes qui leur ont fait la remarque. Voilà, ils choisissent leurs heures de promenade. Ils choisissent à quelle heure on est ouvert, à quelle heure on nous ferme, à quelle heure on va à nos rendez-vous parloir, à quelle heure on va à nos rendez-vous psychologiques. Voilà, tous les rendez-vous internes ou même externes, parce qu'il y a des rendez-vous externes qui ne sont pas honorés. Comme quand, par exemple, s'il y a des rendez-vous avec les juges ou des rendez-vous avec les gendarmes, pour être entendu dans des affaires et qu'on n'est pas appelé. Donc en fait, c'est là où vraiment, oui, les surveillants, ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'au jour, malheureusement, les détenus, ils vont se rebeller. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Au jour d'aujourd'hui, ça fait à peu près 3 semaines que je suis sorti. Et je vois des choses. Et je pense que là, c'est que le commencement. Malheureusement.
Donc tu veux dire que tout le monde a besoin, en a marre des conditions. Et du coup, là, les détenus, ils commencent à bouger un peu, à faire des choses ensemble contre les matons, contre le système pénitentiaire.
Disons qu'il y a plus de... Il y a plus de volonté de montrer qu'est-ce que c'est un détenu. Un détenu, à la base, c'est quoi ? C'est une personne humaine, avec un cœur. C'est pas un animal. On est enfermé, on purge notre peine, mais on n'est pas là pour subir. Pour subir les humeurs des surveillants ou autres.
Et justement, je crois que toi, tu as été directement témoin et victime de ces violences-là. Je sais pas si tu... Enfin, tu voulais parler du coup du cas de Norman et des violences qui ont été faites contre lui.
Alors, c'est vrai que j'étais témoin de plusieurs agressions. La première en date, c'est celle de Norman fauteuil roulant. Voilà, c'est une personne vraiment, vraiment très respectueuse avec les autres détenus. Et c'est vrai que ce qu'il a subi, ça devait pas arriver. Même là, à l'heure actuelle, je vous en parle, ça me ronge intérieurement. Et je pense que... Voilà, j'ai pas de mots pour détailler tout ça, mais c'est vrai que ce que Norman a vécu, c'est... Même pour sa famille, c'est honteux. J'ai été témoin de l'agression. Je vis avec depuis maintenant à peu près 3 mois. Et voilà, pour moi, c'est trop. Donc, si Norman, tu m'écoutes, voilà, sache que je te lâcherai pas. Et que j'irai au bout des choses au tribunal.
Est-ce que du coup tu veux rappeler un peu ce qui s'est passé avec Norman?
En fait, ça s'est passé un jeudi matin au mois de mai. Et en fait, on va pour aller au sport parce qu'on a des activités sportives, voilà. Et Norman voulait aller au sport et sauf que là, vu qu'il était confiné, qu'il y avait une deuxième personne qui était confinée, donc il ne voulait pas nous laisser les deux être ensemble au sport. Sauf que la veille, on avait affirmé aux surveillants qu'on était allé en promenade ensemble et qu'il n'y avait pas de débordement en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les surveillants sont arrivés mais en troupe. Voilà, ils ont déclenché leur alarme sur leur taki-walkie. Ils sont arrivés tous à la foulée en disant voilà, maintenant tu rentres en cellule. Donc Norman a dit dans ces cas-là, ok, je rentre dans ma cellule. Et à ce moment-là, il y a un surveillant qui a commencé à le basculer du côté gauche de son fauteuil. Donc moi et une autre personne, on s'est mis en face du surveillant, on lui a dit ouais, tu fais quoi, c'est un handicapé. Et là il a commencé à le secouer. Ensuite, il a activé sa deuxième alarme pour faire venir le chef. Et c'est là où ça a commencé à déborder. Voilà, Norman a commencé à lever ses mains en l'air en disant qu'il voulait juste rentrer dans sa cellule, qu'il s'opposait à rien. Et malheureusement, la chef est arrivée, elle a été brutale avec lui. Elle a fait basculer de son fauteuil dans sa cellule. Voilà, il a fait 2 roulades par terre. Dans l'après-midi, il a été admis aux urgences. Il a eu un traumatisme crânien. Et à l'heure actuelle, on est en procédure pénale contre la direction et contre le surveillant en question.
Ok.
Donc je suis tout cœur avec sa famille, sa femme, ses enfants aussi. Et que depuis ce jour-là, on lui refuse tous ses aménagements. Et voilà, on lui mène la vie très 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 dure.
C'est en réaction, tu penses, au fait qu'il porte plainte là actuellement par rapport à ce qui s'est passé? Le fait qu'on lui refuse ses aménagements?
Je dirais plus que c'est par rapport à l'affaire de l'évasion d'Amra. Vu que Norman, il a un dossier assez lourd, on va pas en parler, mais c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette évasion-là, ils sont sur ses côtes en fait. Et la moindre démarche, c'est refusé. Là, depuis le mois de janvier, il a demandé 8 permissions refusées. En sachant qu'il peut pas aller nulle part, en fait, il est en fauteuil. Il va revenir. Donc ouais, je trouve ça vraiment dégueulasse qu'on lui refuse son aménagement alors que normalement il aurait dû être sorti depuis le mois de février. Et malgré ça, ben, sa femme est toujours là pour lui.
Tu me racontais tout à l'heure que pendant ces violences, il y a eu directement une forme de réflexe des surveillants de se mettre à deux personnes en opposition aux caméras de surveillance.
Oui, c'est vrai que j'ai oublié ce petit détail. C'est vrai que quand ça s'est passé, quand les surveillants sont venus dans notre étage, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un premier surveillant qui s'est mis devant une caméra face sud, et après il y a un autre surveillant qui s'est mis caméra face nord, afin d'éviter que les caméras voient ce qui se passait. Sauf que voilà, nous on était présents, et que voilà, je vais aussi dire le prénom d'une autre personne, grâce à Frédéric, Norman n'a pas subi le pire. Ça aurait pu être vachement pire. En sachant que c'est pas la première fois qu'il subit des violences. Et que les violences qu'il a subies, à l'heure actuelle, c'est en train de jouer sur sa détention. Et voilà, c'est... Moi, je pense juste à sa famille. Sa famille, ils sont dépités quand il le voit au parloir et... Alors qu'ils l'ont connu sur ses jambes. En fait, il rentrait en incarcération, il était sur ses deux pieds. Au jour d'aujourd'hui, il est en fauteuil roulant à vie. Et j'espère qu'un jour, il pourra remarcher, même si c'est pas gagné. Mais pour faire court, voilà. À Vezin, ils sont pas là pour aider les personnes, mais ils sont plus là pour les tuer. C'est malheureux. Je suis un peu trop direct, mais c'est la réalité des choses.
Oui, c'est ce que tu nous racontais tout à l'heure. Il y a bien deux morts par mois à Vezin, en fait. Et ça impacte aussi, j'imagine, le mental de tous les détenus, en fait, aussi, de voir tous ces morts. C'est super inquiétant pour sa vie ou pour la vie de ses potes et de ses proches, tout ça.
C'est vrai qu'il y a eu pas mal de décès. Donc moi, j'en connaissais quelques-uns. Voilà, quand je travaillais en cuisine ou autre, c'est des personnes avec qui, vraiment, j'ai échangé. Des personnes qui avaient un projet de vie, et je trouve ça vraiment, mais vraiment dégueulasse, en fait, de les pousser à bout, ou alors que les personnes qu'on dise que ces personnes-là, elles se sont suicidées parce qu'il y a eu un manque de mental, alors que c'est faux. Et voilà, il y a des détenus, ils ont subi vraiment des violences, et ça a été constaté. Et voilà, je demande juste que la justice soit faite. Il y a une justice pour les victimes. J'aimerais aussi qu'il y ait des justices pour les détenus.
Tout à l'heure, tu disais que... peut-être que le profil, entre guillemets, de Norman déplaisait aux surveillants et tout ça. Est-ce que tu as l'impression que... qu'il y a un truc où peut-être c'était une personne plus vulnérable et que du coup, il y a eu... des violences qui sont plus facilement commises contre lui, ou alors, peut-être pas, je sais pas.
La seule chose que je peux dire au jour d'aujourd'hui, c'est que Norman, il a un mental très très fort. Mais c'est vrai qu'ils en profitent sur les personnes qui sont en fauteuil roulant. Ça, ils en profitent énormément. Parce que c'est pas le premier, ce sera pas le dernier, malheureusement. Après, je le souhaite à personne, mais ce ne sera pas le dernier. Moi-même, en mai 2024, j'ai été victime d'une descente des iris dans la détention. Parce qu'on avait fait un blocage, parce qu'on ne nous donnait pas nos promenades. Et voilà, j'ai été subi à des violences de surveillants, des coups de bouclier. Donc voilà, ça avait duré à peu près une heure et demie. Sauf que... Voilà, à ce moment-là, malheureusement, toute la maison d'arrêt s'est retournée contre les surveillants. Donc c'est pour dire que voilà, même moi je suis sur mes jambes. Ils s'en prennent à qui ils veulent en fait. Ils ont l'uniforme, nous on est détenus.
Mais ben du coup, tu enfin t'évoquais le fait que qu'il était en fauteuil et que il y a peut-être des formes de enfin de violence qui sont liées à ça, qui sont validistes quoi tout simplement. Et il y a quelques mois à la prison de Saint-Étienne, il y a un détenu qui racontait que son fauteuil était trop large pour passer les portes de sa cellule et que les surveillants l'avaient laissé des semaines sans accès aux activités, sans accès aux douches, etc. Et du coup, enfin, je trouve que c'est un exemple assez parlant du fait que les rapports de domination, les oppressions qui existent à l'extérieur, elles sont concentrées et intensifiées à l'intérieur dans les tôles. Et tu parlais aussi du fait que typiquement quand tu travaillais dans les cantines, les matons forçaient les personnes à manger du porc, même pour les personnes qui en mangent pas. Je sais pas si tu veux en parler de ça. Ou...
Bah après c'est vrai que quand je travaillais dans les cantines ou en cuisine, c'est vrai que les surveillants s'amusaient à mettre des barquettes de porc pour les détenus au mitard. Donc c'est vrai que c'est quelque chose vraiment de dégueulasse. Donc moi quand j'ai su ça, j'ai dû arrêter. Et puis j'ai dû faire passer le message aux autres détenus. Afin que, voilà, il y a une religion et la religion, il faut la respecter. Après c'est vrai que j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport au fauteuil roulant. Y a des personnes à Vezin qui sont en fauteuil roulant, qui ont attendu près de 8 mois dans un fauteuil cassé. Et ça c'est quelque chose que eux-mêmes ne peuvent pas vivre en fait. Ils sont coupés de tout.
Ouais, donc l'administration pénitentiaire, elle freine vraiment l'accès aux trucs nécessaires, en fait. Si tu veux pouvoir vivre un minimum une vie décente en tôle, avoir un fauteuil qui fonctionne, c'est un peu la base si tu veux pouvoir au moins te déplacer dans la tôle pour faire les choses que tu es censé pouvoir faire, en fait. Et donc là, tu n'y as même pas accès.
Bah, le truc, c'est que les personnes n'ont pas accès, donc ça veut dire qu'elles sont... Bah, on les prend pour de la merde, en fait. Ouais. Si je parle cru, hein. Alors que une personne en fauteuil ou une personne qui est sur pied, pour moi, c'est les mêmes en fait. On a deux pieds, deux mains, deux jambes, mais on les dénigre parce qu'ils sont en fauteuil roulant, donc ils sont vulnérables.
Et ça, les matons, ils en profitent pour commettre des violences encore plus.
Ils en profitent beaucoup. Sauf que quand ils voient qu'il y a des détenus qui sont là pour ces personnes-là, ben là, d'un coup, ça commence à changer. Parce que depuis qu'il y a eu l'agression, ils ont vu que j'étais présent et que j'ai participé à l'audition. Ben, c'est bizarre que depuis ce jour-là, ben, ils n'embêtent plus Norman. Ils l'embêtent plus, ils lui font plus des choses de travers. On lui livre ses cantines aussi. Alors qu'à la base, on lui livrait pas ses cantines. Ou alors, on déposait ses cantines à son voisin. Parce qu'il faut dire aussi que, voilà, il est incarcéré, mais l'argent ne tombe pas gratuitement.
Peut-être je sais pas si ça change un peu de sujet, mais peut-être on pourra y revenir, etc. Enfin voilà. Mais comme tu parlais de cantine, ça m'a fait penser que tu disais du coup que à Vezin, c'est plus possible de cantiner les postes radio.
Oui.
Du coup, il y a juste plus de possibilité d'écouter la radio, quoi.
Bah hormis les radios réveil. Après, je sais pas s'ils vont changer leur fonctionnement vu que là-bas, vu que je suis dehors, je peux pas en savoir plus. Mais oui, c'est vrai que moi, je demanderais à tous les détenus de faire bloc et de demander au moins l'accès à un poste. Parce que je pense qu'un poste, c'est nécessaire. Pour écouter les messages de leur famille, pour écouter de la musique, pour savoir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire.
Ouais, t'évoquais même les privations de télé et tout ça. Enfin, est-ce que toi, tu as ressenti vraiment une volonté de couper les personnes le plus possible de l'extérieur et de les isoler.
C'est vrai que quand on fait des erreurs, on est confiné et qu'on cantine nos propres télés d'une valeur de entre 150 et 200 euros. Voilà, on est puni, on doit pas nous retirer notre propre télé. On peut nous retirer la télé de la détention parce que ça leur appartient, ça, au niveau de ça, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que quand on s'amuse à nous retirer les télés, les consoles gratuitement, les postes, les lecteurs DVD, ça veut dire que voilà, qu'on nous prend vraiment pour des animaux, en fait. On n'a droit à rien. On est limite en garde à vue. Et encore, même en garde à vue, je pense qu'on est mieux traité. Ou alors, avant que je sorte aussi, ils avaient coupé les cabines pendant 2 jours. Alors que il y en a qui avaient besoin d'appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs avocats. Donc c'est un monde à part. C'est un monde à part, c'est triste, c'est horrible, c'est... Il n'y a pas de mots pour définir ce que c'est Vezin. Pourtant j'en ai connu des détentions. Comme je t'en parlais tout à l'heure, voilà, j'ai été à Marseille au Beaumet. Et ça n'a rien à voir. Certes, la prison, elle est plus forte. Elle est en surnombre. Mais on est respecté par les survivants. Moi, j'entends pas... Au Beaumet, j'entends pas qu'il y a des suicides tous les mois. Il se passe des choses, mais rien à voir avec ce qui se passe à Vezin. Et puis, à l'heure actuelle, à Vezin, il y a des survivants qui sont agressés. C'est peut-être pas juste pour leur famille, mais ils méritent que ce qu'ils ont, en fait. Moi je détaille ça comme ça parce que j'ai vécu des violences des surveillants et que malheureusement j'ai pas pu répondre à ça, parce que si je répondais à ça, mes enfants, je les aurais plus revus, et puis je faisais aussi de la peine à la mère, à ma fille. Donc je pouvais pas me permettre de rester plus longtemps en détention. Donc après, je dis pas aux détenus de faire le canard ou quoi que ce soit. Je dis juste, voilà, que s'il y a des débordements, il faut y aller, en fait. Et que si vous voyez que des handicapés se font frapper, je vous demande vraiment d'intervenir pour eux.
Ouais, cette solidarité-là dont tu parles, tu la vois pas mal ou pas à Vezin ? Est-ce que les détenus, ils arrivent à créer des liens entre eux pour résister un peu face aux violences des matons et tout ça, ou c'est compliqué, ou on brise ces liens que vous pouvez créer entre vous ?
À Vezin, il n'y a pas de solidarité. Nous, on était 3 solidaires. Après, je prends un exemple par rapport à l'agression que j'ai pu voir sur Norman. On n'était que 3. Donc... comme je t'expliquais tout à l'heure, quand on lui a pas servi son repas, et que nous, avec un autre détenu, on a décidé de pas rentrer en cellule, tout simplement, tant qu'il n'avait pas son repas. Et puis, si j'aurais été encore en incarcération, si ça serait à refaire, je le referais. Parce que manger, c'est un droit. Donc je vois pas pourquoi on s'amuserait à faire ça, en fait. Mais c'est vrai que À Vezin, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi, en fait.
Est-ce que là, du coup, tu parlais du fait de refuser de rentrer en cellule. Est-ce que tu as des idées, enfin peut-être pas d'ailleurs, mais de comment est-ce qu'on peut lutter à l'intérieur, des modes d'action? Enfin, il y a notamment du coup le fait de refuser de rentrer dans sa cellule, c'est ce dont tu parlais. Est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, est-ce que c'est le moyen le plus classique peut-être ou...
Ben en fait, pour être solidaire et pour qu'ils nous écoutent, vu qu'ils peuvent pas mettre tout le monde au mitard, c'est quasiment impossible. Ben donc c'est blocage de tout l'étage en fait. Parce que mettons qu'ils plient un détenu, ils vont pas en plier un deuxième, c'est quasiment impossible. Après le meilleur moyen c'est les défenseurs des droits, tout simplement. Il n'y a qu'eux qui peuvent constater de toutes les violences, parce qu'il y a violence psychologique, il y a les violences morales, violences physiques, il y a toutes sortes de violences.
Et tu parlais tout à l'heure que il y avait les téléphones qui étaient coupés là quand t'es parti. Ça arrive souvent ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, tu sais?
Je ne sais pas. Après, je sais qu'ils nous disaient que c'était des mises à jour, mais je sais très bien que ce n'est pas des mises à jour. Parce que c'était toute la pénitentiaire qui était privée de téléphone, donc... Après, ils s'étonnent pourquoi les détenus ils ont des téléphones en cellule. Bah, si on nous prive de téléphone, après, c'est à nous d'employer les choses. Nous, on n'est pas là pour... je prends mon cas personnellement. Moi, quand j'avais un téléphone, je le faisais pas pour faire du deal ou quoi que ce soit. Je le faisais pour regarder les photos de ma famille, les photos de ma femme, les photos de mes enfants. Voilà ce que je faisais. C'était plus un contact dans ce sens-là qu'un contact pour emmerder l'État, en fait.
Du coup, là, ça fait un peu moins de 2 semaines que t'es sorti, je crois. Est-ce que ça, enfin, pour toi, la sortie a pas été violente, etc. Parce que, enfin, je pense que c'est toujours une bonne nouvelle et tout, mais pour certaines personnes, ça peut être super violent aussi de sortir. Est-ce que, enfin, toi, tu le vis plutôt bien quand même?
Bah, moi, je le vis bien. Après, c'est vrai que je connais une personne. Hein. J'en ai parlé avec lui, c'est une personne qui aimerait avoir des permissions aussi, et on lui refuse toutes ses permissions, juste pour aller voir un logement, pour qu'il puisse se réinsérer. Donc en fait je me dis, il va être libéré en fin d'année, il n'a pas eu de permission, il va avoir un petit choc carcéral, entre la liberté et l'enfermement.
Je sais pas si tu... Il y avait d'autres sujets que tu voulais évoquer.
Bah, j'aimerais évoquer aussi les fouilles abusives. Ça, c'est quelque chose que... Bah, en fait, c'est trop. C'est pour faire pousser les détenus à faire du très sale. Comme ce qui s'est passé il y a à peu près 2 semaines de ça. Qu'un surveillant, il s'est fait... Un surveillant il s'est fait agresser. Donc un collègue à moi a eu une fouille de cellule qui a refusé de se faire fouiller. Et par rapport à ça, lui-même il s'est fait casser le bras. Un petit jeune homme de 25 ans qui est pas épais comme une armoire. Mais voilà, il a subi une fracture du bras. Pour une simple fouille. Puis aussi il y a les détenus qui vont au parloir et qui sont fouillés à chaque parloir. Moi ça n'a jamais été le cas, j'ai jamais été fouillé. C'est là où vraiment on voit que c'est à la tête en fait du client.
T'as des... Tu sais si, enfin, ouais, il y a des personnes qui ont fait l'objet de fouilles répétées, systématiques, qui oui, ont oui. vraiment été visées par ça.
Oui, oui, il y a des fouilles qui ont été répétées très régulières. Un petit jeune homme de, bon, jeune homme de 32 ans, c'était mon voisin de cellule en maison d'arrêt. Et c'est vrai que cette personne-là, elle est fouillée à tous les parloirs. Lundi, mardi, dimanche.
J'ai l'impression qu'il y a des tas et des tas de mécanismes de violence, de formes de violence qui existent dans la tôle, quoi, et qu'on pourra pas forcément toutes les en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est cool que tu puisses partager ça. Comme on le dit à chaque fois, c'est super difficile. Enfin, en tout cas, oui, c'est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que la tôle est faite pour qu'on sache pas ce qui s'y passe. Et du coup, c'est super important que cette parole soit partagée, quoi. Donc, merci beaucoup, en tout cas.
Ben, merci à toi.
Et je sais pas si t'as d'autres trucs qui te viennent en tête et tout ça. Mais... Et sinon, ça pourra être revenir une prochaine fois ou quoi, enfin, comme tu le sens.
Non, pour le moment, ça va.
Ok.
Mais n'hésite pas à revenir, et même n'importe qui peut nous écouter, n'hésitez pas à venir parler ou nous transmettre des choses par mail, par appel, par courrier. Voilà, on pourra faire un point de contact tout à l'heure. Mais c'est cool d'avoir des personnes qui peuvent venir s'exprimer, entendre enfin les voix des personnes qui ont tellement de choses à raconter, je pense, et qu'on n'entend pas assez, qu'on n'écoute pas assez.
Merci à tous les deux.
Et du coup... la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé Internet entre temps. Du coup, peut-être que on peut vous passer le morceau qu'on avait prévu de vous mettre en intro. C'est le morceau RSA de Rock. Et comme ça, on peut se retrouver juste après pour partager ce que vous nous avez envoyé pour cette émission. Du coup, je vous partage RSA de Rock et on se retrouve juste après.
Zeppo dans le sofa, nique le salarié. Les yeux comme panda, futé comme Dora. Zeppo dans le sofa, je grouille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. Zeppo dans le sofa, nique le salarié. Les yeux comme panda, futé comme Dora. Zeppo dans le sofa, je grouille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. Sophie, c'est ton coussin, je me hisse. Je bois mon coca dans mon calice. Ouais, sois pas trop pressé, je zone dans les abysses. Je fasse un max, j'ai pas la mort du risque. Et je fais ce qu'il baille pas l'emploi. Je zone jour quand il faut pas, ya. Fané, cané, pas là. Et on a fait le taf sans compta. Si on a besoin, on péta, ya. J'suis plus là, j'ai les chaussures qui pleurent. Me suis pas levé, j'ai pas vu l'heure. Jamais le matin, jamais le patron, j'l'ai montant l'heure. Ne bougerai pas le cul, j'ai trop à faire. Tant j'ai le matin, tant j'ai le... Oh là là là. Je ferai ce qu'il me plaira. La cave, c'est mon sugar daddy. Oh là là là. Je suis pas prêt de me sortir les doigts. Ça fait 6 mois, je mange que du riz. Zeppo dans le sofa, nique le salarié. Les yeux comme panda, futé comme Dora. Zeppo dans le sofa, je grouille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. Zeppo dans le sofa, le salarié, les yeux comme panda, futé comme Dora. Zeppo dans le sofa, je graille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. J'ai le drip d'un opossum, wah-wah. Un ailleurs qui pue l'opium, maman. Connais pas le mot curriculum, nana. J'ai pas le temps, mais c'est tout comme j'écoute pas les gna gna gna. Et moi j'suis saoulé, maman qui ferait le match. Pas le temps pour le cash, on est calé. Je suis pas des tâches, fais bail à l'arrache. J'suis saoulé, que des doubles tâches. Souris sur les flashs, j'ai un kawaii. Tous les autres vite match, demain on se fâche. Oh là là là, j'ferai ce qu'il me plaira. J'veux dormir jusqu'à midi. Oh là là là, j'ai affaire, me réveille pas. Je slip sur mes ennemis.
C'est pas dans le sofa, nique le salarien. Laissé comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le sofa, nique le salarien. Laissé comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends le 5 du mois pour toucher mon RSA.
Et on vient d'écouter du coup le morceau rock, le morceau RSA de rock, pardon. Et voilà, c'était un début d'émission un peu particulier, comme on a eu une coupure d'internet qui a pas duré longtemps, mais du coup on a commencé avec une discussion avec avec Falco. Et là on va pouvoir partager tous vos messages. On va repartager le message qu'on a reçu du coup de la part des parents d'Aurélie pour Aurélie. Et ensuite on pourra cette fois partager le morceau du coup qui était le morceau Tour du Monde de Yans. Désolé pour ce petit changement de programme dans l'émission. Mais tout repart, enfin tout fonctionne, donc c'est nickel. Et je vous partage le message des parents d'Aurélie pour Aurélie.
Bonjour Aurélie, de la part de papa, maman et tes enfants. On espère que tu vas à peu près bien. Bon courage pour la semaine prochaine et puis fais attention à toi. À très bientôt et puis on t'embrasse très très fort. Gros bisous.
Bonjour Aurélie, c'est maman. Bon, Luna et Tito te font des gros bisous. Hein. J'espère que ça va, tu fais attention à toi, on t'embrasse très très fort et puis plein de gros bisous. Bisous.
Si je te dis que je t'aime, est-ce que tu resteras encore? Et si mon cœur est à la traîne, feras-tu tout pour qu'on s'en sorte? Parler de toi, ça me fait tourner la tête. J'avais jamais connu ça avant toi. Si tu décides que demain tout s'arrête, je sais que je retrouverai jamais quelqu'un comme toi. Du coup je tourne en rond. Tu me fais faire le tour du monde. Du coup je tourne en rond. Je me vois pas sans toi une seconde. Toi tu me fais tourner, tourner la tête. À chaque fois que je croise ton regard, toi tu me fais vivre, vivre la fête. Tu danses partout dans ma mémoire. Et moi je tourne en rond. Tu me fais faire le tour du monde. Et moi je tourne en rond. Je me vois pas sans toi une seconde. Et même si je l'avais voulu, toi tu sais bien que c'est pas possible. Je t'aurais décroché la lune, même si ça paraît impossible. Toi t'as ce truc qui me fait battre le cœur. Avec toi il fait qu'accélérer. T'es là, j'aimerais stopper les heures. Comme si le temps je pouvais contrôler. Du coup je tourne en rond. Tu me fais faire le tour du monde. Du coup je tourne en rond. Je me vois pas sans toi une seconde. Toi tu me fais tourner, tourner la tête. À chaque fois que je croise ton regard, toi tu me fais vivre. Danse partout dans ma mémoire. Et moi je tourne en rond. Tu me fais faire le tour du monde. Et moi je tourne en rond. Je me vois pas sans toi une seconde.
Et voilà, c'était Tour du Monde de Yans. Et on va passer à une autre dédicace pour Aurélie, cette fois-ci de la part de Bernard, Claudette et Romain, avec un message vocal suivi de la musique Donnez-moi le temps de Jennifer.
Bonjour, c'est Romain, c'est pour Aurélie. Je te fais de gros bisous et de gros câlins. Je t'embrasse et j'ai changé mes lunettes. Et je suis en vacances.
Je te passe Bernard.
Coucou Aurélie, c'est Bernard, je te souhaite bon courage, on t'aime, gros bisous, merci de la carte.
Bonjour Aurélie, c'est Claudette. Bon, j'espère que tu vas bien, hein. Bon, Romain est en vacances, hein. On s'en va jeudi. On se voit vendredi, d'accord, Aurélie, hein. On pense à toi très très fort. On te fait de gros bisous, hein. Et puis, on se voit vendredi, d'accord. Bon, je te passe Romain.
Et je te fais de gros bisous et de gros câlins. Et tu me verras avec mes nouvelles lunettes.
Oui, on a changé nos lunettes à tous les deux, d'accord, Aurélie. Allez, on te fait plein de bisous, Aurélie, et on t'aime.
Tellement de gens veulent tellement être aimés pour se donner, peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on savait juste un peu patienter.
Prochaine dédicace, c'est pour Norman fauteuil roulant. Donc c'est une petite pensée pour toi, mon frère, et puis à toute ta famille et à ta femme.
Et du coup, le morceau, je crois que tu voulais lui envoyer Sous le soleil de Marseille de Loïc Rumba. on écoute ça tout de suite. Et le morceau va se lancer tout de suite, si YouTube veut bien fonctionner. Ok, c'est bon.
Je prends mon terre et la sécheresse sur une terre.
Vas-y, ajoute le morceau.
Je suis dans la rue, mon chien n'a pas de laisse, et moi non plus. Une petite pièce de quelques individus, c'est un peu de tendresse que volontiers j'ai vu. Lorsque le vent souffle, surtout quand il fait froid, oh fada, y'a rien de plus pénible que de rester planté là, sous le soleil de Marseille, on joue au boulot. Sous le soleil de Marseille, le flingue et la caboule. Être abruti ou bien fada, comme une douille. Nous pour ça, on ne s'en fait pas, on s'en bat les couilles. Je suis plein aux as, je suis gavé d'argent,
de mouli.
Que jeunesse se fasse, excuse-moi maman. Voulez-vous bien que je passe, s'il vous plaît monsieur l'agent. Moi je ne viens pas de l'espace, c'est vrai, j'en ai volé souvent. Je lui fais ma grimace et lui, il me répond en souriant. Dis-moi jeune, tu veux que je te la casse, la belle rangée dedans.
Mon cher,
sous le soleil de Marseille, on joue au boule. Sous le soleil de Marseille, les schmitts et la cagoule. Tard dans la nuit, tôt le matin, boulevard Farigoule. Moi et mes potes, on est tous bourrés comme des couilles, ça me bat les couilles. Ce qu'il faut, c'est se caser avec une nana.
Une bonne date, quoi.
Celle qui vit loin dans tes pensées, même, viens le comprendre pas. Que nous vivons dans une époque où il te faut l'argent.
Un trop d'ailleurs.
Pour réparer toutes les cloques du plafond dans l'appartement. Moi j'ai eu beau lui expliquer, mais elle ne comprend pas. Que ce que j'aime c'est triquer, et même par-dessus ça. Sous le soleil de Marseille, on se la saoule. Sous le soleil de Marseille, au pastis y'a foule.
Et c'est trop bon.
Boire au comptoir ou en terrasse, boulevard d'Athènes. Nous ce soir, on se met kénasse, sinon c'est pas la peine. De l'ivresse, le reste, je m'en rappelle plus. Marseille est la jeunesse, Marseille est la seule qui a le jus. Du fruit de la tendresse, mais qui donne jamais le cul. Que m'importe à moi le reste, si nous avons la liberté, j'aimerais qu'on fasse un geste pour nous dire enfin la vérité. Mais sous le soleil de Marseille, on nous la dissimule. Nous on mange des patates bouillies, eux ils mangent au rue. Boire au comptoir ou en terrasse, au bord de la Seine. Aux Parisiens, t'inquiète pas, je sais que tôt ou tard, boire à la tienne.
Et vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez l'émission 94 degrés à l'ombre. Et on va vous partager maintenant un message qu'on a reçu de la part de Diane pour Mourad. et Diane a accompagné son message du morceau « Face à la mer » de Calogero et Passy. Donc je vous partage son message et juste ensuite le morceau.
J'entends siffler le train au loin. Je donnerai tout pour partir et ne plus revenir. Une personne me retient sur le quai, toi. Tu redonnes un sens à ma vie. Je t'aime d'une force que les murs de Vaisin le Coquet s'en souviennent. La force de notre amour me donne du courage et de l'espoir. J'ai un bon crochet droit dans la vie et j'assure mes arrières. Bouh. Je relance un SOS d'amour pour toi comme une bouteille à la mer. Je déplore notre situation faite d'injustice. Toi, tu as la chance de m'avoir dans ta vie. Alors réveille-toi, Morane. Un nouveau vent frais souffle sur nos vies. Je reste debout pour toi et nos étoiles. On n'a qu'une vie, et l'amour, c'est la vie. Je crois en toi, en nous. À toi d'y croire aussi. Allez, courage, je t'aime.
On ne choisit ni son origine, ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Naître les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Être en tri dans le conflit et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots.
Face à la mer.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, il y a l'état profond et l'état à côté. L'état pas un euro ou la tape à l'arracher. Il y a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça, toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauches, droites, avec un air patibulaire. S'étouffe dans le goudron, cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopassi 2004, action.
Face à la mer,
ouais.
J'aurais dû grandir. Face contre terre,
ouais.
J'aurais pu.
La couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château, quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou, comme Cosette pour Hugo. Est en prix, dans le conflit, est prié très haut. Ici c'est faux, NGO, cette NGO, M-I-C-R-O. J'ai quoi les mots, face à la mer, on veut tous grandir. Calot, Passy, trop jeune pour mourir.
C'était du coup un morceau de Calogero et Passy. On va poursuivre cette émission avec un message qu'on a reçu de la part de Malika pour tous les détenus et Norman. Donc on écoute le message de Malika.
«
Bonjour à toutes les détenues, bonjour à tous les détenus. Je vous envoie plein de gros bisous, je pense fort à vous, je vous souhaite bon courage et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous. Norman, salam alaikum. Mon fils, mon cœur, mon amour, je pense sans tout le temps, constamment à toi. J'espère quand même que tu vas bien. Surtout, prends soin de toi, Norman. Prends soin de toi. Pardon. Rafi Soren te fait des gros bisous. Rafi va bien. Je lui ai dit que je t'envoyais des dédicaces. Il n'a rien dit. Il m'a juste dit, passe le bonjour à Norman. Voilà. Là, je suis trop contente et j'espère que tu l'es aussi, mon petit cœur, et j'en doute pas de toute façon. Voilà, sinon rien de spécial. Voilà, sinon, il y a des nouveaux petits minous ici, dont un que j'ai appelé Pépito, puisque Pépito, paix à son âme, Pépito d'à côté est parti. Je l'avais déjà dit, mais comme je sais pas... Si tu peux, écouter les dédicaces, les messages, voilà, je te redis, donc c'est Pépito, Ginger, c'est la petite de Letty et Norman, Orman, Norman aussi, qui est dans les murs, là, à Vezin, le kéké, là, ou le kéké, ou je sais pas quoi, bref, Starful, là. Et j'ai mis, je mets la dédicace et la dédicace que vous allez écouter tous. J'espère qu'elle va vous apaiser un petit peu. En tout cas, essayez en écoutant cette magnifique musique. Alhamdoulilah. Voilà mon petit cœur d'amour. J'avais pas fini, j'avais dit trois chats et l'autre c'est Calice. Calice, c'est la fille de Pépito qui a choisi le nom parce que quand elle a 16 ans et quand elle aura 18 ans, elle prendra Calice. Voilà, ainsi que Letty et Orman qui prendront Ginger. Voilà mon cœur, je t'embrasse très fort, très fort. Je t'aime mon fils, ma bataille. Mon fils, mon amour, mon fils, mon cœur. Je t'aime, mon cœur. Gros bisous. Et toi, mon petit Orman, aussi, également, je t'envoie plein de gros bisous. Et surtout, prends soin de toi aussi. Voilà, en espérant entendre ta voix fin août, début septembre, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop, en fait. Voilà. Gros bisous. Et fuck le Heps.
Ya Allah, ya Allah, même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. T'as plus d'espoir, t'enfreins les lois. Personne ne t'aide déjà, on te monte du toit. Écoute-moi, j'étais comme toi. Bien avant toi, on m'a fait la dawa. On te condamne, tu te sens damné. À peine jugé, en enfer on t'a placé. Fais un effort, réveille ton cœur. Allah détient ton sort jusqu'à ta mort. Sincèrement, au fond de ton cœur, demande pardon pour toutes ces horreurs. Allah jamais ne refusera le repentir de tous ses serviteurs. Ya Allah, ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir.
Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. C'est le Ramadan, profitons-en, comme calmant c'est le meilleur moment. Toutes les nuits, je sais pour toi, ça ne doit vraiment pas être la joie. Tu le fais pour Dieu, ça te démange. Allah des cieux t'envoie toute sa clémence. Va vers Allah à petits pas, et vers toi il viendra à grands pas. Alhamdoulilah, je me sens mieux, grâce à Allah je suis plus heureux. Comme un oiseau, je sors de ma cage pour m'envoler là-haut dans les nuages. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Tous ces moments que j'ai vu passer, tous ces instants que j'ai dû négliger, toutes ces actions que j'ai repoussées, de ce temps-là je me suis guère soucié. Sans cesse me rassurant chaque journée, qu'un jour viendra je serai musulman. Tous ces instants que je ne peux rattraper, un jour viendra je le regretterai. À tout moment, tout peut basculer. À tout instant, tout peut s'arrêter. Mais dis-moi donc, qui peut t'assurer que pour toi, ta vie est déjà tracée. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir, tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire. Ya Allah, Ya Allah, même dans le noir tu nous donnes de l'espoir. Ya Muhammad, Rasoul Allah, seule la patience conduit à la victoire.
Et c'était la dédicace de Malika pour tous les détenus et pour Norman. C'était Yahala du silence des mosquées. Et maintenant on va pouvoir passer à une dédicace de Fred pour Pascaline. Donc c'est une musique qui s'appelle « Don't let me be misunderstood » de Santa Esmeralda. We'll be right back.
Et vous êtes toujours sur Canal B, vous écoutez toujours l'émission 94 degrés à l'ombre, l'émission de radio qui fait fondre les barreaux. Et on va poursuivre avec un message qu'on a reçu de la part de Cindy pour Norman H en fauteuil. Du coup, je vous partage le message et juste après, on écoutera le morceau Trista Pena de Gypsy King, qui est le morceau choisi par Cindy.
Coucou Norman, c'est nous. Bah écoute, on te fait un gros bisou. On est en vacances au Sainte. On pense à toi. J'essaye de montrer aux enfants tout ce qu'on avait fait quand on était ensemble, les souvenirs. Je leur explique un peu.
C'est trop bien, papa. Et nous, on t'aime fort, trop fort. Même bisous. À bientôt.
Et moi, moi je trouve que c'est cool. Mais c'est bisous, papa. Je t'aime.
Thank you.
está peinado, ya déjalo ya. Yo sé que un día volverá. No me acuerdo de ella, amor, amor amargo, amor llamadita amargo, amor con mi querer.
C'était un message et une dédicace de la part de Cindy pour Norman H. Et on en est arrivé à la fin des messages, des dédicaces pour l'émission d'aujourd'hui. Du coup, comme il nous reste un peu de temps, on s'est dit qu'on pouvait continuer à discuter un peu avec vous de tout ce qui concerne la tôle, toutes les formes de tôle, les prisons, les centres de rétention administratifs, l'enfermement psychiatrique aussi. Donc voilà, on a ce petit temps pour parler jusqu'à 14h. Et du coup, on pensait vous lire une partie d'une brochure qui s'appelle « À barreaux rompus » que vous pouvez retrouver sur InfoKiosk, qui est un site où vous pouvez trouver plein de brochures sur plein de sujets. Super intéressant, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez. Et notamment, il y a pas mal de brochures sur la prison et sur l'enfermement. Donc c'est une brochure qui fait 45 pages, donc on va pas tout vous lire, mais il y a un chapitre qui s'appelle « Détruire les prisons et toutes les formes de punition » que je vais vous lire du coup. « Parmi les rares critiques de la prison, nombreuses sont celles qui font la promotion d'autres peines, d'autres manières de punir qui seraient plus adaptées. Plus adaptées pour quoi ? Pour qui ? La punition, qu'elle se traduise par une incarcération, une amende ou des heures de tige, sera toujours un instrument au service de l'autorité qui nous écrase. On nous juge au nom d'un ensemble de valeurs morales qui nous est imposé, la loi. On nous punit afin de nous placer dans une situation d'inférieur vis-à-vis de ceux qui veulent nous tenir en leur pouvoir, vis-à-vis de l'État qui cherche à garder le contrôle de sa population. La punition finit toujours par conforter une position de supériorité, quelle que soit l'autorité qu'elle sert. D'ailleurs, des profs souhaitant corriger leurs élèves, ou n'importe quel chef ou chefferie qui veut maintenir son pouvoir, punissent pour montrer qu'ils sont les plus forts, tout comme les juges des tribunaux. Et même si dans certains cas, punir part d'une bonne intention, comme des parents qui puniraient leurs enfants pour leur bien, entre guillemets, cela contribue tout autant à perturber à perpétuer le sale goût de la soumission. À chaque fois, punir signifie asseoir une autorité sur d'autres. Et bien souvent, le châtiment est légitimé comme un mal nécessaire au nom de valeurs soutenues par une majorité. La punition donne l'illusion qu'on règle les problèmes. En réalité, elle restreint ces derniers à la sphère individuelle, en occultant les rapports sociaux qui imprègnent les actes des individus. Par exemple, punir le violeur n'a jamais contribué à détruire la culture du viol. Soit tout un tas de discours, d'attitudes et d'images, entre autres, qui répandent l'idée qu'on pourrait satisfaire ses désirs avec quelqu'un, quelqu'une, sans son consentement. De la même manière, punir n'a jamais permis d'anéantir les rapports de domination des hommes sur les femmes. La punition vise à contrebalancer une souffrance par une autre et ainsi rétablir un équilibre. Lorsque les juges punissent, ils désignent une coupable et lui infligent une peine qu'ils estiment proportionnelle à la faute commise. Par l'intermédiaire de la justice, la logique punitive s'impose donc comme l'unique moyen pour apaiser, voire compenser des douleurs. Or, au fond, qu'est-ce qui fait aller mieux ? Est-ce la souffrance de l'autre ? Ou plutôt sa reconnaissance d'avoir commis un acte problématique. Est-ce la souffrance de l'autre ou un sentiment de sécurité pouvant être acquis par divers autres moyens ? De surcroît, passer par la justice ajoute souvent de la douleur à la douleur, particulièrement lorsque les juges et les avocats décortiquent votre vie en public. La punition sert toujours une autorité, c'est en cela qu'elle diffère d'une vengeance qui cherche à mettre fin à un rapport de domination plutôt qu'à le renforcer. Se venger face à un acte d'oppression, qu'il soit sexiste, raciste, homophobe ou autre, peut permettre à la personne qui l'entreprend elle-même, accompagnée ou non, de reprendre le dessus, de ne plus se sentir victime, de clore une histoire comme elle le désire, et ou de se sentir forte. La punition se base sur le principe de l'exemple. On en punit une pour dissuader les autres. De cette manière, elle nous pousse à bannir certains de nos comportements par peur de ce qu'on pourrait nous faire endurer, et non par prise de conscience de leurs conséquences sur les autres. C'est pourtant bien cette prise de conscience qui paraît importante pour que des changements s'en suivent. Mais celle-ci est rendue difficile lorsque la punition est perçue comme la seule réponse envisageable à une attitude problématique. Car punir, et donc faire autorité, ce n'est pas compatible avec la possibilité d'un échange sincère, nécessaire, pour confronter quelqu'un, quelqu'une, aux conséquences de ses actes. Il semble donc important d'imaginer d'autres formes de réponses qui par ailleurs ne soient pas systématisées mais réfléchies à chaque fois en fonction de la particularité de la situation et des individualités concernées. Cela signifie aussi reprendre possession de nos capacités à affronter des problèmes nous-mêmes en dehors de tout système de régulation de nos rapports, que ce soit la justice de l'État ou n'importe quel groupe d'individus qui s'imposerait comme spécialiste de la conciliation en toute situation. Voilà, c'était un petit extrait du coup qui parlait de la peine, du fait de punir. Je sais pas si ça vous évoque des trucs et tout ça. Moi je trouve c'est important de rappeler que les autres formes de peine judiciaire qui sont pas l'emprisonnement, mais typiquement comme il est dit dans le texte, les amendes, les tiges, etc., elles ont le même effet de précariser des personnes, de les isoler. Elles se fondent aussi sur des rapports de domination classistes et racistes qui sont ceux de la justice pénale qu'on connaît. Et donc les critiques qu'on peut faire à l'égard de l'enfermement, je pense qu'on peut tout autant les faire à l'égard des peines dites entre guillemets plus douces. Et voilà, je trouve que c'est toujours bien de rappeler ça, quoi.
Oui, et puis bah justement la question de la punition, c'est aussi que le système judiciaire qu'on a actuellement, donc il se base sur le fait de punir les personnes et pas de rétablir quelque chose aux personnes qui auraient souffert d'un manque, qui auraient été violentées par ce que l'autre personne aurait pu faire de mal. Mais ça empêche aussi de prendre en compte, de considérer pourquoi est-ce qu'une personne va, entre guillemets, mal agir, de prendre en considération pourquoi est-ce que, bah, par exemple, tu as volé un monde dans un magasin. Bah, il y a des raisons matérielles qui poussent au vol. Et donc, en punissant la personne, on ne lui donne pas les moyens de ne pas recommencer. Au contraire, on va juste lui donner toutes les raisons du monde de recommencer parce qu'elle va être encore plus précarisée. Et donc, on ne prend pas en compte que si une personne va mal agir, c'est parce qu'il y a des raisons derrière qui ne sont pas individuelles, mais qui concernent bien l'entièreté de la société, en fait, et qui sont des problèmes qui nous concernent tous et toutes, de le système ne fonctionne mal et pousse des personnes à avoir des comportements qui peuvent blesser les autres parce qu'il y a des manquements en tant que société. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on puisse réfléchir, c'est que ça individualise les actes de déviance, entre guillemets, alors que du coup, les raisons que ces actes arrivent, c'est des raisons sociétales, qui est des raisons systémiques, qui concernent donc tout le monde. Donc voilà.
Et j'ai l'impression que la question qui est posée dans une institution judiciaire, c'est vraiment uniquement celle de quelle peine on va prononcer. Et du coup, cette place qui est accordée à la punition, c'est justement ça qui empêche de se demander comment est-ce que matériellement on peut faire en sorte que les choses soient mieux, quoi. Enfin, en fait, la place prépondérante qu'on accorde à la punition, elle empêche d'accorder une place suffisante à comment est-ce que on peut faire en sorte d'aider la victime, quels sont ses besoins, et comment on peut faire en sorte que les rapports entre les individus soient plus paisibles et qu'il y ait moins de violence, quoi. Et voilà, j'aime bien aussi cette idée qui est évoquée que la punition, elle est judiciaire, mais il y a des tas d'autres domaines de la vie sociale dans lesquels la punition est pratiquée, notamment au travail, à l'école, dans les familles, etc. Et je pense on pourrait parler d'une culture de la punition, quoi, qui est...
Oui, bah justement, dans le cadre de l'éducation des enfants, en fait, la punition, c'est très très normalisé. Comme si c'était une façon d'élever un individu pour qu'il apprenne de ses erreurs. Et on va punir un enfant de 5 ans parce que, je sais pas, il a mangé du chocolat alors qu'il n'avait pas le droit et il allait voler dans les placards. Sans du coup essayer de comprendre, peut-être que si l'enfant il allait manger du chocolat, c'est parce qu'il avait faim, peut-être parce qu'on n'écoute pas ses besoins. Et punir, ça crée juste une peur de faire quelque chose, mais ça n'empêche pas de faire la chose, et donc ça crée juste une précarité encore plus grande. Et chez les enfants notamment, c'est vraiment inquiétant de voir que ça existe encore, ce système, en fait, de punir, et que ça soit autant banalisé, le fait de punir comme ça. Et puis en dehors du coup de la punition qui est un peu officialisée, où on dit ah tu es puni, que ce soit parce qu'on te met en taule, parce que t'as eu un procès, parce qu'on te dit tu vas au coin, parce que on t'enlève une partie de ton salaire, il y a aussi juste tout l'aspect de la punition sociale. On peut avoir des fois, même sans le vouloir, de punir une personne. Ah, t'as mal agi, je vais te bouder, je vais arrêter de parler à cette personne parce qu'elle a fait ça. Donc c'est aussi une forme de punition qui est moins officialisée, mais qu'on peut quand même retrouver, et qui a juste des répercussions sociales sur perdre peut-être une partie de son entourage, tout ça.
J'ai l'impression que il y a vachement ce truc aussi d'essayer une punition, ça sous-entend qu'il y a un truc légitime, que ce soit en réaction à quelque chose, etc. Et dans la plupart des cas, j'ai juste l'impression que c'est l'exercice d'une violence qui essaye de se draper d'une bonne raison, etc. Et qu'en fait, ça n'en reste pas moins juste le fait d'être violent envers quelqu'un. Et je trouve que c'est notamment le cas des parents parfois qui juste peuvent être violents et qui pensent que c'est parce que l'enfant a fait une bêtise. Et en fait, c'est peut-être juste une légitimation, quoi, pas forcément bienvenue. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec la justice, à savoir qu'en fait, c'est juste une envie de violence, etc., envers les autres, et qui se cache derrière la légitimité et la légalité. Mais voilà. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui vous viennent. Ou pas.
Bah, du coup, peut-être ça peut aussi nous faire poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire si on veut sortir de la punition. Comment est-ce qu'on réfléchit à faire autre chose que punir, parce que il y a forcément des alternatives à la punition. En fait, on peut fonctionner autrement que juste en réprimant les gens. La répression, c'est pas une solution. La punition, ça n'en est pas. Mais du coup, il y a d'autres choses qui existent, je pense. Et ça a même pu être testé, je pense, dans plein d'endroits, dans plein de cas différents, de comment est-ce qu'on règle des problèmes qui ont pu arriver sans punir qui que ce soit, mais juste en se disant, ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, de quoi est-ce que tout le monde a besoin actuellement pour que ça se reproduise pas et que tout le monde aille mieux. Je sais pas si vous avez un peu des idées en tête de choses qui pourraient se faire.
Ben, je sais que à Rennes, enfin, c'est disponible partout d'ailleurs, mais il y a un document qui a été produit par la FRAP notamment, le Front Révolutionnaire Antipatriarcal, qui s'appelle La Pat Patrouille gère ses casseroles. Je crois que c'est ça.
Je crois que c'est la Team Pat Pat.
Ah. Oui, c'est vrai que la Pat Patrouille, c'est autre chose, mais bref. Et du coup, bah, qui donne des pistes là-dessus, notamment pour les organisations et tout ça, mais qui peuvent peut-être s'étendre à d'autres sphères. Je pourrais pas genre résumer très efficacement et tout, mais je pense que ça se fonde notamment sur prendre en compte les besoins des victimes plutôt que voir comment on peut punir la personne, etc. J'imagine que c'est nécessaire aussi d'interroger les structures, quoi. Et comment est-ce que la violence a pu survenir. Enfin, voilà. Je pense que cette brochure, on peut la trouver. Non.
Alors, il me semble qu'elle est disponible en bio du compte Instagram de la FRAP. Et le Instagram, c'est FRAPREN. Voilà, je crois qu'il est téléchargeable et normalement un jour il sera disponible sur InfoKiosque, mais pas tout de suite. Okay. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir InfoKiosque, on vous en parle souvent et il y a vraiment plein de chouettes trucs. Voilà, mais oui, enfin globalement, c'est tout ça, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on... Enfin en fait, c'est aussi la question de faire une justice différente... sans punir, c'est que la punition c'est beaucoup plus rapide, ça prend moins de temps, ça demande pas à s'interroger collectivement sur comment s'améliorer, ça répond bien aux besoins aussi capitalistes d'être efficace et de remplir les prisons rapidement pour des raisons économiques, alors que si on pouvait prendre le temps de se demander qu'est-ce qui va pas, comment est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux, c'est quoi notre responsabilité collectivement dans le fait qu'il y ait des gens qui font des choses mal et le fait qu'il y ait des gens qui vont mal, et ce serait déjà vachement plus simple. Donc du coup, l'une des solutions aussi, c'est de pouvoir lutter aussi contre les instances capitalistes et les instances répressives et toutes les oppressions systémiques en fait, qui existent, racistes, classistes, sexistes, queerphobes, validistes, etc. C'est un bon début, j'ai l'impression.
Et je crois que c'est assez établi que les violences, elles surviennent beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus facilement quand il y a des rapports de domination. Typiquement, un patron sur ses employés, les parents sur leurs enfants, etc. Et du coup, je pense que le seul fait de lutter contre toutes les formes de domination, c'est déjà réduire les possibilités d'émergence des violences, on va dire. Mais voilà. Je crois, Falco, tu avais un appel à la solidarité entre les détenus à faire passer et tout ça aussi.
Oui, par rapport à toutes les violences qu'il y a eu dans le centre pénitentiaire de Vezin, je recommande à tous les détenus d'être ensemble et pas à part. Parce que être divisé, c'est pas la meilleure des solutions. Et je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez vraiment besoin d'être tous soutenus l'un vers l'autre et ne lâchez rien. C'est tout ce que j'avais à dire. Après, j'aimerais juste revenir sur aussi la punition. Les peines de prison, ça enfonce les personnes. Ça rapporte pas de l'aide. C'est pas en allant en prison qu'on va comprendre de ce qu'on a fait. Oui, on va être coupé du monde. On va réfléchir. Mais si la personne ne veut pas réfléchir, elle va recommencer. Et malheureusement, elle va faire que des rentrées, des sorties, des rentrées, des sorties. Donc moi je le dis honnêtement, la prison, c'est pas parce que je suis allé en prison que j'ai compris. Je suis allé en prison parce que j'avais une peine à faire. Mais par rapport à ce que j'ai fait, j'avais déjà compris avant. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai mûri. Et je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais s'il doit avoir des punitions, voilà, je recommande vraiment à l'État de d'accompagner les personnes en tige. Ou alors de mettre plus d'éducateurs dans les rues, dans les cités. Je pense que ça serait plus judicieux que les entasser en détention 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 mois. Parce que quand on sort de détention, on est obligé de tout refaire et on repart à zéro.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et peut-être qu'on peut se laisser avec le morceau qui crée la violence de Mauvaise Langue. Je crois qu'on le passe occasionnellement, on va dire, dans l'émission. Mais voilà, ça fait un petit moment. Et en tout cas, c'était cool de passer ce moment avec vous. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Et grosse force à vous tous et toutes. Et bon dimanche.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
On l'apprend déjà à l'école, là où la violence nous prend, mais la violence nous colle. Alors certains frères, eux, ont honte d'être pacifistes. Pourquoi tant de violence ironique, ironique,
ironique. Regarde les acteurs du secteur, facteurs de peine de prison, lecteurs de faits divers,
terre, disons.
Les cités sont devenues une jungle où les stupes épinglent. Les dealers, grâce aux balances, vous flinguent. Mais de façon, ça schlingue la corruption jusqu'à l'Elysée. Et lors du manif, Jules j'aurai à dévaliser les magasins en criant
CRSSS.
Frère, baisse mon pote qui charge, on se baisse, 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 baisse. Direction la thèse, zaza, wesh, la baisse, baisse.
Dis-moi, t'aurais pas 5-20?
Si, si, alors je trouve qu'un vieux 15G plastifié à la cire de bougie au bleu RG.
RG,
ton indique est mort. Sache qu'ici on mange pas de porc, mais les flics on mord.
Et jusqu'à la mort,
on se soumet au silence. Crée la violence dans l'eau.
On nous appelle la délinquance.
On débarque comme la fin de ce monde où l'homme juste débute et se prend pour une bonne blonde. Ah si, monte comme un tox qui spit ou comme un ivrogne qui tape un coma itilique. Là le prototype Mike Flinger, Sidebanger, Junai, couvreur, tueur, on traîne pour la mort d'un terre-terre. Celui qui cagoule et débarque, qui défonce ma porte, braque ma famille
avec son arme de Robocop.
Stop, stop, ce coup-ci pour lui c'est fini. Plus de grouille à Hagra, plus d'embrouille,
plus de bavure de minuit.
Mais y'en a plein d'autres qui créent la violence lors d'un contrôle, dis-moi. Donc la délinquance, ça pourrait être la télé
qui crée la violence,
ça pourrait être ce monde de fêlés
qui crée la violence,
ça pourrait être l'esprit emmêlé
qui crée la violence.
Après cette vie en violence, je serais violent sur pure plage, je passerai ma violence.
Yo, certains dans la vie se demandent d'où vient la violence, qui l'a créée, qui l'a subie. Peut-être ceux qui n'ont pas de chance, allez arrête de charger plutôt que ça vienne des quartiers. Tous on va chez construire des gens de couleur, noir ou pas, allez. C'est là ce que les gens pensent ainsi, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Juste de les faire taire, en leur prouvant le contraire. À chaque contrôle de police, demande-leur qui crée la violence. Pour eux, c'est les jeunes, sans aucun doute, ça a eu une influence. Mais quand un adolescent se flingue dans un commissariat, qu'est-ce que tu dis, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Obligé de niquer d'arroi. Pourquoi violence? On est chômeurs et les études. étudiants. Tu veux du temps qui demande des aides, c'est fini de s'exprimer poliment. Manifestation, cachage de vie, explose toujours le passage. Et ouais, personne n'y échappe. La violence, ça pourrait être la télé qui en est responsable. T'es dans le bar si demain tu me vois plus, c'est un gars.
J'avise déjà, en l'an zéro, y'avait des grosses violences. La résistance, même pour du feu, des gros coups de lance. Quelle coïncidence, et pense quelles sont les conséquences. C'est que dans cette bande de pute, à la base, on n'a aucune chance. Quelle bonne science, ouh, tu te fous de ma gueule. Je fais silence et me démontre par des coups de gueule. Là, je suis en transe, mais heureusement, je fais que moralement. Des fois, inconsciemment même, ma main légifle assidûment. C'est le déroulement de la vie, regarde les faits qui se passent dans le monde. Y'a trop de gens sans abri, des tonnes de plus en plus de bombes. Donc, dans un monde immonde, que faire? Sauf être violent, y'a que les coups de pression qui marchent et les frères qui montent en bilan ou en kilant. Quand la saison se fait rare en yoyant ou en braquant, si ça, c'est ça, on veut du changement. Brown speaks, the bell, du changement. Ouais. Ça pourrait être l'exclusion
qui crée la violence.
Un voleur surpris dans ma maison
qui crée la violence.
Une trop grosse peine de prison
qui crée la violence.
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violence.
Ça pourrait être un regard déplacé
qui crée la violence.
Une bavure et décès
qui crée la violence.
La jalousie due au succès
qui crée la violence.
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violence.
Ça pourrait être ces fachos du FN
qui crée la violence.
La haine envers ce système
qui crée la violence.
Une vie de chien qui me pose des problèmes
qui crée la violence.
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violence.
C'est ce jeune Toulousain abattu à corps. Ces flics FN qui palpent mon corps.
Qui crée la violence.
Mes yeux trop foncés et ma peau foncée.
Qui crée la violence.
Après cette vie au violon, je serai violent. Sur pure plage, je passerai ma violence.
Wesh Ismaili, comment ça se passe?
Ça se passe tranquille.
J'ai entendu des trucs comme quoi à l'école ça allait mal.
Ouais, je sais, c'est à propos de ma prof là.
Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Parce qu'elle m'a appelé, je suis pas venue. Après, elle est venue sur le terrain de foot. Elle a voulu mettre une claque.
Arrête.
Bah après, moi j'ai enchaîné direct.
Et t'as pas essayé de parler avec elle?
C'est elle qui a pas essayé de parler avec moi. Parler avec moi.